Donc, on était resté à la fin, justement, sur cet épisode de ces Exode 33, versets 7 à 11, qui dit le jeune Josué, donc on est encore dans la jeunesse de Josué, le jeune Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Et on avait passé du temps là-dessus. Est-ce que nous, on reste à l'intérieur de la tente? Est-ce que parfois Dieu est obligé de se déplacer parce qu'on est vraiment pas là où on devrait être. Voilà, donc on avait parlé de ça. Josué, c'était la meilleure préparation pour lui, c'était d'être vraiment dans la présence de Dieu, dans cette tente de la rencontre qui était très simple. Ce n'était pas encore le tabernacle, puisque c'est juste la période où Dieu a donné les instructions pour le tabernacle. Donc j'avais dit que c'était la meilleure préparation pour Josué, vu l'itinéraire qu'il a après. De ce grand général, ce grand leader. La meilleure préparation, ça a été ce temps passé dans la présence de Dieu, soit seul, soit avec Moïse sur la montagne. Alors, j'ai pensé à quelque chose qui ressort assez souvent dans les milieux chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut penser des temps de préparation? Alors, je pense par exemple, école biblique, école de disciples, les livres qu'on peut lire, les DVD qu'on peut regarder, les CD qu'on peut écouter, les séminaires, les conférences. Alors, il y a deux écoles qui, comme toujours, sont un petit peu excessives. D'un côté, vous avez des gens qui vont dire, si on passe pas par une école de théologie, si on passe pas par une préparation sérieuse, solide, 4 ou 5 ans minimum, etc. On ne peut pas bien connaître le Seigneur, on ne peut pas parler du Seigneur, on ne peut pas enseigner comme il faut, etc. Et puis de l'autre côté, on a aussi des évangéliques qui disent, bon, avec la Bible, on a tout ce qu'il faut, on n'a besoin de rien d'autre. J'ai même connu des églises où on vendait pas trop de livres chrétiens parce que la Bible suffit. Point. Et puis, pour parler de Dieu, on n'a absolument pas besoin de faire des études, quelles qu'elles soient. Le Saint-Esprit fait tout. Il est pleinement suffisant. Alors, on est tiraillé entre ces deux façons de voir qui sont pas fausses, ni l'une ni l'autre. Et alors, je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit l'autre fois à propos de quand on est accablé de travail et j'ai pas de solution. Là, j'en ai quand même une. Parce qu'à l'usage, si on observe, on voit à peu près où est le juste milieu, où est la solution. Je crois que le problème réside plutôt dans le fait qu'on peut s'appuyer sur une formation. C'est pas la formation qui remplace l'appel. Si vous n'êtes pas appelé à servir Dieu dans quelque chose, vous aurez beau faire toutes les formations du monde. D'ailleurs, les gens du monde le savent. Prenez un médecin. Alors, Nirina n'est pas là, je crois, je ne l'ai pas vue. Mais prenez un médecin qui n'a aucune vocation, qui fait ça pour gagner de l'argent. Ou un prof, c'est vrai aussi, hein. Il peut avoir une très bonne formation, le médecin. Il peut avoir tous ses diplômes, il peut avoir fait son internat dans les meilleurs hôpitaux. La plupart de ses patients diront, ouais, il est compétent, mais je préfère aller chez quelqu'un d'autre. Pareil pour un prof. Il peut avoir son agrégation, il peut avoir des doctorats, avoir des connaissances fantastiques, mais s'il n'a pas la vocation, et ça c'est vrai dans le monde, hein, je parle en dehors du monde chrétien, s'il n'a pas la vocation, bon, dans les cours, c'est triste. Hein. Moi j'en ai eu pas mal à la Sorbonne, des gars comme ça. Ils étaient hyper compétents, mais alors dites donc, ils ne nous apportaient pas grand-chose. Parce qu'il n'y avait pas cette vocation de l'enseignement, ce désir de transmettre, etc. Alors, vous voyez, si c'est vrai dans le monde, à combien plus forte raison c'est vrai pour quelqu'un qui sert le Seigneur? Les temps de préparation les meilleurs, ça c'est indéniable, c'est dans la présence de Dieu. Ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Les meilleures écoles de théologie, Vaux-sur-Seine et autres, non, ne remplaceront jamais une relation personnelle avec le Seigneur. Maintenant, quand on a une relation personnelle avec le Seigneur, c'est pas mauvais de pouvoir se préparer un petit peu, de compléter, de chercher. Alors, maintenant, le problème se pose si quelqu'un n'a aucune possibilité de formation. Et là, je reviens à ce petit témoignage que je vous avais lu une fois qui m'avait vraiment frappé. Ce petit Africain, Samy, c'est un témoignage qui remonte à une centaine d'années, hein, qui ne connaissait rien, mais qui avait une telle communion avec le Seigneur. qu'arrivé aux États-Unis, il faisait pleurer des auditoires entiers, les gens se convertissaient par centaines, parce qu'il était tellement rempli de la présence du Seigneur. Alors, vous voyez comme quoi le problème, il est là. Est-ce qu'on est rempli de la présence du Seigneur ou pas? Et les connaissances ne remplaceront jamais. Maintenant, c'est là que c'est un petit peu plus délicat. Quelquefois, Dieu nous appelle à faire les deux. Si on a à notre disposition des outils, il nous demande de nous en servir. C'est un petit peu comme les médicaments, hein. Je crois qu'on peut dire, le Seigneur guérit, je ne toucherai jamais un médicament. Moi, je connais des gens qui fonctionnent comme ça. Amen. C'est pas à juger ni à critiquer. S'ils ont cette conviction, il faut respecter. Mais je crois que Dieu a donné de la sagesse à des biologistes, des pharmaciens et autres pour qu'on ait les bons médicaments. On peut creuser un trou avec ses mains. Ils en ont fait l'expérience sous Pol Pot. C'était assez tragique de mettre tous les intellectuels à creuser la terre avec les mains pour leur montrer. Curieuse éducation. Mais on peut le faire. C'est très dur, c'est très fatigant. Mais on peut aussi utiliser des outils tranchants, efficaces. Voilà. Et je pense que la formation, Dieu nous donne des outils. Ça ne remplacera jamais un appel, ça ne remplacera jamais une vocation, mais ce sont des outils qui accompagnent une vocation et qui peuvent être extrêmement efficaces. Moi, je suis convaincue que quand on a une communion avec le Seigneur et qu'à côté de ça, on a l'humilité de s'informer, on fait des bonnes choses. Et je pense qu'on a des exemples autour de nous. Justement, avec André, on a été très frappés par Jack Efford, qui est ce genre d'homme qui a une réelle présence de Dieu dans sa vie, dans son quotidien, mais qui a un cerveau énorme et qui peut accumuler des quantités de connaissances et qui peut les rendre simples pour les mettre à la portée des autres. Amen. Merci Seigneur pour ces gens-là. Hein? Dieu n'a pas hésité à utiliser Paul. Misère Paul, il était hyper instruit pour l'époque. Réfléchissez un tout petit peu. Il parlait latin, certainement, araméen dans le quotidien, hébreu, et il écrivait en grec. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent couramment quatre langues. Elles n'étaient pas mortes à cette époque-là, les langues. C'était des langues vivantes. Et Dieu s'est servi d'un homme extrêmement cultivé, qui connaissait les Écritures par cœur, et c'est quand même grâce à lui qu'on a toutes ces explications de l'Ancien Testament qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Donc, oui, mais Paul avait aussi une relation avec le Seigneur. Et là où, je crois, est le nœud du problème, c'est qu'il ne s'est jamais appuyé sur sa formation. Il a même dit, je regarde tout ça comme de la boue. Il n'était pas orgueilleux de sa formation. Il ne s'appuyait pas sur sa formation. Alors, vous voyez, tout est en fait, on revient toujours à la même chose dans l'Église. Tout est une question de cœur. Mais on ne va pas refuser les outils. Et je pense que parfois, j'irais même jusqu'à dire que refuser des outils que Dieu nous donne en disant « la Bible me suffit, je suis assez grand pour lire la Bible », c'est une forme d'orgueil déguisé. Donc attention, sous une apparence de foi, on peut cacher un orgueil un peu bizarre. J'ai besoin de rien d'autre, j'ai que la parole de Dieu. Je pense que l'écoute des autres, que ce soit au travers d'un livre ou d'une prédication, c'est important. Je vous avouerai même un de mes gros défauts. Je ne sais pas si c'est vraiment un défaut. Comme c'est à moi, ce n'est pas un défaut. C'est souvent, je regarde les serviteurs de Dieu quand ils écoutent un autre serviteur de Dieu parler. Ça renseigne beaucoup sur l'humilité de quelqu'un. Et quand je vois un serviteur de Dieu vraiment fidèle, qui va écouter attentivement un message et prendre des notes, ou même simplement écouter attentivement, je me dis, waouh! Celui-là, il a certainement de l'humilité. Celui-là, moi, je l'écouterai. Voilà, c'est peut-être un défaut chez moi, je ne sais pas. Mais c'est un signe pour moi. Être capable d'écouter l'autre, c'est vraiment un signe important chez un serviteur de Dieu. Alors, ce n'est pas une clé, hein, mais c'est quelque chose qui m'a toujours frappée. Alors, on va suivre notre petit Josué, qui est encore bien jeune, qui sort de sa tente. Et il lui arrive quelque chose d'assez curieux. Nombre 11, 28. C'est un épisode assez rigolo, je trouve. 11-28, on a fait un petit bond en avant. Moïse en avait assez d'entendre les enfants d'Israël rouspéter. On peut le comprendre. On était à un enterrement cette semaine et j'ai rencontré des conseillers municipaux de mon ancien conseil municipal et ils étaient assez rigolos parce qu'ils disaient qu'ils aimaient bien râler, rouspéter. On aimait bien l'ancien maire, on vient d'enterrer l'ancien maire. On l'aimait bien, je dis oui, il avait un caractère difficile, oui, mais... Oh, mais nous, on aimait bien rouspéter aussi, hein, ça fait partie de la vie. Ah, vous êtes bien français. Hein. Mais les Israélites étaient bien de ce type. Ils aimaient rouspéter, mais c'était quand même grave, hein, parce qu'à chaque fois, ils parlaient de lapider les gens, c'était quand même pas très sympa. Et Moïse en avait assez, il était lassé de leurs demandes constantes, de leurs récriminations, surtout par rapport à l'eau et à la nourriture, et d'un autre sens, il faut se mettre à sa place, il faut se mettre à leur place, c'était pas évident non plus. Et du coup, Dieu lui dit, bien écoute, rassemble 70 anciens, mets sur eux un peu de l'esprit qui repose sur, enfin, je vais mettre sur eux un peu de l'esprit qui repose sur toi. Et puis, quand Dieu fait ça, ils se mettent à prophétiser. Quelqu'un a fait remarquer que quand on sert le Seigneur, le don de prophétie était très, très important. C'est vrai. C'était des leaders du peuple, 70 anciens, pour un peuple immense, hein, quand même. On a calculé entre 1 et 2 millions, hein, c'était quand même important, en comptant tout le monde, hein, les femmes et les enfants aussi. Et puis, il se passe quelque chose d'étrange, vous allez voir, 11-28. Deux hommes, des nombres, hein, nombre 11-28, deux hommes, l'un nommé Eldad, l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Alors, cette traduction dit souffle au lieu d'esprit. Hein. Ils étaient parmi les inscrits, donc des 70, mais ils n'étaient pas sortis de la tente, vers la tente. Donc, ils ne s'étaient pas rendus à la tente de la rencontre. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp, au milieu des autres, vous imaginez. Un jeune homme courut dire à Moïse, « Eldad et Médad font des prophéties dans le camp !» Josué, c'est là qu'on retrouve Josué, fils de Noun, qui a été auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse. À chaque fois, c'est précisé, auxiliaire, serviteur, etc. S'écria Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ça me rappelle quelque chose. Moïse lui répondit, tu es jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes. Oui, il aurait certainement moins de problèmes. Si le Seigneur mettait son souffle sur eux. Sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Ça ne dérangeait absolument pas Moïse, mais Josué, lui, il a appris quelque chose. D'une part, que Dieu est souverain, qu'il donne son esprit à qui il veut, et ce n'est pas un privilège qu'on va garder jalousement. Je crois que jusqu'à présent, Josué voyait Moïse. Et puis, derrière, je crois qu'il s'en occupait pas trop. Il y avait Dieu, il y avait Moïse. Et quand il voit que d'autres gens commencent à prophétiser, et pas dans le cadre de la tente de la rencontre, mais au plein milieu du camp, il faut les arrêter. Et Jésus leur répond, mais s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Et je crois que pour nous, il est toujours difficile d'accepter de voir des choses qui sortent du cadre habituel. Par exemple, c'est très humain d'avoir du mal à accepter des ministères qui sont en dehors de notre cadre, de notre église ou de notre dénomination. Alors peut-être à Aubergenville, c'est un peu spécial parce qu'on est très ouvert à l'extérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas de toutes les églises. Et c'est quelquefois difficile dans certaines églises de voir des ministères se développer. Oh, mais ils n'appartiennent pas à ma dénomination. Ils ne travaillent pas dans l'église. Et j'ai remarqué que Dieu agit souvent, mais souvent, en dehors de nos cadres de pensée, du cadre de nos habitudes, du cadre de notre culture familiale, nationale ou religieuse ou ethnique. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans beaucoup de cultures, il y a par exemple un très grand respect des anciens. Je crois que c'est le cas en Corée particulièrement, mais je sais, dans beaucoup de cultures. Et on n'imaginerait pas un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans, qui va imposer les mains à un vieillard. Et pourtant, combien on a de témoignages de gens qui ont été guéris quand un tout jeune, même un enfant parfois, a prié pour eux. Dieu n'est pas limité par le cadre de notre culture. Il y a aussi la culture religieuse. Je repense au pasteur de Thierry Virgo, qui était un homme âgé. Et Thierry Virgo, à l'époque, était un tout jeune homme. C'est un pasteur du sud de l'Angleterre, hein, qui a un mouvement assez... Nouvelle Frontière, je crois que ça s'appelle, New Frontiers. Et il a été très touché dans sa jeunesse quand il a vu quelqu'un qui était venu prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et que son vieux pasteur anglican, qui faisait le culte tous les dimanches avec sa grande robe noire, est allé le premier venir demander la prière à ces jeunes gens remplis du Saint-Esprit. Ça a été un choc pour Thierry Virgaud. Un choc de voir l'humilité de cet homme. Et il a suivi l'exemple de son vieux pasteur. Voyez, Dieu dépasse le cadre de notre culture souvent. Par exemple, la culture aussi de l'instruction. On imagine mal un homme du peuple qui va instruire dans la foi d'autres gens. Et pourtant, l'apôtre Pierre, vous savez, Pierre, on l'imagine bien, hein, pêcheur, musclé, toujours en plus extroverti comme pas deux, qui n'avait pas de culture, il n'avait pas l'ombre de la culture de Paul. Il n'empêche que Jésus l'a choisi parmi ses disciples, et les deux lettres qu'il a écrites ou qu'il a fait écrire, on ne sait pas trop, sont extraordinaires, les deux lettres de Pierre. Bunyan, oui. Oui, on peut citer aussi l'exemple de Bunyan, qui était un ferblantier, qui a écrit un livre qu'on étudie, je le dis souvent, hein, qui est au programme de l'agrégation en anglais à peu près tous les 4-5 ans. Il n'est pas tombé sur mon année, c'est bien dommage. Parce qu'ils le comprennent beaucoup moins bien que nous. Mais vous voyez, et Dieu bouleverse nos schémas. Un homme du peuple qui va enseigner les autres. Et moi, j'ai entendu mes profs de fac dire « On ne comprend pas comment un ferblantier a pu composer une telle merveille. » Moi, je comprenais au moins. Ça, au moins, ça passait. Pensez aussi aux gitans. Ils ne sont pas tous des voleurs de poules et des gens qui créent des problèmes dans les villages. Il y a des gitans qui sont authentiquement convertis et qui ont des messages de foi qui vous bouleversent. Ils savent à peine parler le français. Souvent même, ils ne savent pas écrire. Donc, vous voyez, Dieu bouleverse sans arrêt notre culture. Je pense aux coutumes familiales, qui dans la Bible étaient quand même extrêmement fortes, et puis aujourd'hui encore. Hein. Ces coutumes familiales qui parfois nous lient, et puis on tient à les respecter, regardez Laban. Il a préféré mentir et rompre sa promesse plutôt que de passer outre la coutume familiale qui voulait qu'on marie d'abord l'aîné, ensuite la deuxième. Tant pis, il a menti, il a cassé ses promesses, mais la coutume familiale, ça se respectait. Alors que la parole donnée, à cette époque-là, était quand même importante. Donc vous voyez, la coutume familiale passait encore avant la parole donnée. Et souvent, les coutumes familiales, c'est celles qui nous empêchent de venir au Seigneur, c'est celles qui nous empêchent de grandir. Donc, familiale, ethnique, culturelle, religieuse. Attention, Dieu a l'habitude de passer au-dessus de ses coutumes. Et la Bible est un exemple constant où Dieu passe au-dessus des coutumes. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre à Philémon, mais lisez-la. Lisez-la 10 fois. Réfléchissez qu'à cette époque, l'esclavage faisait partie des mœurs. Et Paul dit, c'est Paul qui écrit à Philémon, il dit, reçois cet esclave qui s'était enfui. Et quand un esclave s'était enfui, en général, on le passait au fer rouge, enfin, on faisait toutes sortes de misères. C'était pénible. Quand on a le droit de le tuer aussi. Mais enfin, ça coûtait cher quand même, les esclaves. 30 cycles d'argent. Et il dit quoi à son maître? Il lui dit, reçois-le comme... Vous avez lu les Écritures finalement ? Reçois-le comme un frère. C'est un scandale pour l'époque. Un frère ? Un esclave ? La Bible passe outre les coutumes. Et c'est ça qui a permis aux civilisations d'avancer. Hein. Pourquoi les civilisations chrétiennes ont quand même avancé ? Parce que quand même, derrière, il y avait un message clair. Donc, vous voyez, Dieu aime bien passer au-dessus des coutumes. Rappelez-vous aussi... Le droit d'aînesse, les mains de Jacob, j'en ai parlé la dernière fois. Mais alors parfois, il y a un danger inverse dans les milieux chrétiens. Vous savez, on est toujours partagé, comme tout à l'heure, hein, entre deux extrêmes. Oui, mais alors qu'est-ce que je dois penser, moi, d'un tel ou un tel, qui a un grand ministère, machin chose, à tel endroit, qui fait des choses bizarres. Alors, je dois considérer que, il fait des choses bizarres, mais que Dieu, il est d'accord pour les choses bizarres. Donc, allez, on y va. Et là, il faut quand même de la sagesse. Et je trouve que c'est un exercice difficile. Hein. C'est comment on va. Alors Dieu nous demande d'avoir du discernement. Et le discernement qu'il nous recommande, c'est Matthieu 7, 20. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc je n'ai peut-être pas trop tort de regarder comment les gens écoutent les prédications. On reconnaît un arbre à ses fruits. Relisez Galates, les fruits de Galates. La patience, la paix. La joie. Est-ce que c'est des gens qui sèment des fruits comme ça? Ou ils sèment la division, la discorde, la haine? les fruits, la gloire de Dieu, la crainte de Dieu, on va en reparler tout à l'heure, le respect, l'amour des autres, l'accent mis sur la repentance qui est le centre du message de la Bible. Je sais qu'André et moi, c'est souvent notre référence. Quand on ne sait pas trop quoi penser d'un grand prédicateur, est-ce que le mot repentance lui dit quelque chose? Est-ce que lui vit dans cette repentance, dans cette remise en question? Ça aide. Parce que Jésus est clair, et ça je sais que je le répète à chaque fois, mais on ne le répétera jamais assez parce qu'on est humain. Et si on voit quelqu'un qui fait des miracles, on va tout de suite dire « Waouh, quel chrétien extraordinaire !» Ce n'est pas du tout ce que disait Jésus. Jésus disait « Vous pouvez guérir des malades, prêcher la parole, chasser des démons en mon nom, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mais vous savez, on le dit avec notre tête, mais chaque fois qu'on voit quelqu'un qui fait des miracles, on est ébloui. Et on oublie ce que Jésus a dit. Donc, soyons attentifs, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça le critère de Dieu, celui qui fait la volonté. Et chasser des démons, guérir des malades n'a jamais été la preuve d'un bon chrétien. Jamais. C'est triste, mais c'est ce que Jésus a dit. Et si c'était vrai au temps de Jésus, c'est encore vrai aujourd'hui. Regardons les fruits. Et parfois, on peut être choqué que quelqu'un passe au-delà des coutumes, nationales, ethniques, familiales, etc. Mais s'il a des bons fruits, s'il fait la volonté de Dieu, alors pas de problème. Donc voyez, cet équilibre n'est pas toujours facile à tenir, mais on a des repères avec le Seigneur, c'est les fruits. C'est les fruits. Alors après cette petite aparté, notre petit Josué, il a appris quelque chose. Il voit qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à l'homme de Dieu. Dieu voit plus large que simplement Moïse. Il voit tout le peuple, il voit les besoins du peuple. Il y a un verset ensuite qui choque, alors je pense que j'en parlerai pas longtemps parce que je l'ai évoqué la dernière fois, c'est le passage des cailles où le peuple est toujours en colère, hein, il veut manger de la viande, etc. Et il y a un petit bout du verset qui est très important qui dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désirs et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Ils disaient « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'il avait au milieu de lui un ramassis de gens. Qui c'était ? Toutes sortes de gens. De gens peut-être rencontrés en route, mais principalement des Égyptiens, qui avaient très très bien compris que le Dieu d'Israël était plus fort, et qui en avaient certainement marre d'être en Égypte, et qui ont profité de la Pâque pour faire la même chose que les Israélites et partir avec eux. La Bible dit qu'ils ont été suivis par un certain nombre d'Égyptiens. Mais malheureusement, ce ramassis de gens, ils voulaient profiter de la grandeur de Dieu, il voulait profiter de tout ce que Dieu faisait, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Vous vous rappelez le verset de la semaine dernière, il n'avait pas la crainte de Dieu. Problème. Et évidemment, ils ont toujours poussé Israël dans le mauvais sens, à rouspéter. Bon, on dirait, on n'a pas toujours besoin de ça. Nous, en France, on rouspète naturellement. On n'a pas toujours besoin d'avoir un ramassis de gens pour nous pousser au crime. Mais ça a été quand même un problème. Et Dieu a donné des cailles. Ils en ont mangé tellement d'ailleurs que beaucoup en sont morts. Est-ce que les cailles avaient quelque chose? On ne sait pas. Là aussi, je pense que Josué a appris quelque chose. Donc les enfants ont les petits papiers, je les ai donnés la semaine dernière, où on explique les migrations de cailles qui se sont arrêtées en 1924, je crois, ou 27. Donc vous pourrez regarder dans les cahiers des enfants. C'était très intéressant. Nombre 12. On a encore un problème qui a dû choquer certainement Josué. Myriam et Aaron ont commencé à parler contre Moïse. Ils ont trouvé un prétexte, c'était sa femme, Couchite. Alors, on ne sait pas très bien, mais on suppose que comme Couch était rattaché à Madian et que Moïse avait épousé une Madianite quand il était dans le désert, on pense qu'il s'agit bien de sa femme, donc c'est Séphora. Et ils ont pris là un prétexte, ouais, il a épousé, il n'a pas épousé une fille d'Israël, voilà. Et en fait, le véritable problème était ailleurs, ce n'était pas tellement sa femme qui préoccupait les gens, c'était... Est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? C'est donc Nombre 12, verset 2. Ah, ah, ah! C'était ça, le vrai problème. Et alors, je ne comprends pas, c'est curieux, parce que Myriam, c'est elle qui avait sauvé la vie de Moïse. Aaron, avec Moïse, avait affronté le Pharaon. Et ils osent remettre en question la relation de Moïse avec Dieu. Alors, est-ce qu'ils en avaient après Moïse? Je ne crois pas, parce qu'ils aimaient Moïse. Mais c'est le choix de Dieu qui va les choquer. Ah, les choix de Dieu. Les choix de Dieu nous posent aussi des problèmes à nous. Et combien il y a de chrétiens aujourd'hui, enfin de gens qui se disent chrétiens, qui osent remettre en question des versets comme ceux-là, 1 Timothée 2:5. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul. Moi, je vois beaucoup de gens que ça gêne. Ou bien quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Est-ce qu'il n'y a que par Jésus que Dieu parle ? Ou encore, moi j'entends parfois, pas chez nous, c'est vrai, mais il y a des chrétiens qui disent parfois, « Mais vous savez, tout n'est pas écrit dans la Bible. Moi aussi, Dieu me parle. » Dieu ne parle pas que dans la Bible. Moi aussi, Dieu me parle. Et Dieu m'a dit. Ah. Combien d'hérésies et de sectes sont nées de phrases comme ça ? Dieu m'a dit. Et c'est en contradiction directe avec la parole de Dieu, mais Dieu m'a dit. Dieu ne parle pas que par la Bible. Dieu ne parle pas que par Jésus. Vous voyez, c'est l'homme, ça. C'est typiquement l'homme. Les choix de Dieu nous choquent, qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ah, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais oui, mais il y a d'autres chemins. C'est notre raison qui nous dit ça. Et on a tendance à remettre en question les choix de Dieu. Et ça, c'est grave. En tant que chrétien, on n'est peut-être pas trop touché par ça, parce qu'on a accepté le choix de Dieu. Mais parfois, c'est d'autres remises en question. Pourquoi un tel a reçu ce ministère ? Moi aussi, je veux ce ministère. Puis j'en ai envie, puis je le ferai de toute façon. C'est comme une lèpre qui va ronger notre vie chrétienne. J'ai malheureusement connu des gens qui vivaient dans cette dynamique et qui se sont étiolés dans leur vie chrétienne parce qu'ils remettaient en question les dons que Dieu avait donnés aux autres. C'est dommage. Vous savez, Josué aurait pu rouspéter parce qu'il avait quand même mené le peuple à la victoire au moment des Amalécites. Puis pendant toute une période, il ne va rien faire que rester dans le temple, chercher la présence de Dieu. Je pense qu'il aurait eu de quoi rouspéter. Il n'est que le serviteur de Moïse, après avoir été un général d'armée. Mais il va accepter de n'être que le serviteur de Moïse. Et il ne va rien demander, rien réclamer. Pendant des années, il va se contenter d'être dans la présence de Dieu, de profiter de la présence de Dieu et de servir Moïse. Qui ne veut pas être forcément facile, j'imagine. C'est quand même un homme d'une certaine stature. Myriam va être atteinte de lèpre et va être guérie après les supplications et la repentance d'Aaron. Alors, on ne dit pas qu'elle s'est repentie, j'espère qu'elle l'a fait, mais Aaron, lui, s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu quand il a vu sa sœur atteinte de lèpre. Moïse va prier, Aaron demande pardon et elle est guérie. Et au passage, même si ce n'est pas toujours le cas, il faut quand même signaler que la repentance est parfois la clé de la guérison, mais pas systématiquement, hein. Surtout, n'allez jamais accuser quelqu'un en disant « si tu es malade, c'est parce que tu as besoin de te repentir ». C'est peut-être une fois sur 90, j'en sais rien, ou une fois sur 100, peut-être plus, je n'ai pas de statistiques dans ce domaine. Mais attention de jamais dire ça à qui que ce soit. On n'a pas le droit. Sauf si Dieu nous l'a demandé, auquel cas il faut le dire d'une autre manière. Je me souviens, John Wimber nous disait toujours de poser la question aux gens. Est-ce que tu penses dans ton cœur qu'il y a un obstacle à la guérison ? Et si la personne dit non, elle est responsable devant Dieu, on n'a pas à venir lui casser les pieds avec autre chose, on remet ça entre les mains de Dieu. Mais j'ai malheureusement entendu, il y a quelques années, il y a 12 ans, quelqu'un qui a dit ça, et ça, non. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es malade parce que tu as péché. On est tous malades parce que Ève a commencé, et puis voilà. la maladie, le péché est entré dans le monde, mais à part ça. Mais dans certains cas, la repentance est vraiment la clé de la guérison. On a vu des gens guérir après avoir demandé pardon à Dieu pour quelque chose de spécifique. Ça, c'est quand même la vérité. Mais on n'a surtout jamais le droit d'accuser les gens. On va passer à Nombre 13, où on a un texte assez rigolo, je trouve. Parce qu'il est en contradiction directe, vous imaginez ? Un texte de la Bible en contradiction avec un autre texte de la Bible. Nous qui passons notre temps à dire, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Alors, on va attaquer Nombre 13. Le Seigneur dit alors à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse. Vous avez bien entendu. Envoie des hommes explorer Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu. Chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya depuis le désert de Paran sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. Voici leur nom. Ah ! Et alors on avance un tout petit peu et on lit dans Deutéronome 1:20. Donc, c'est le livre suivant, Deutéronome, chapitre 1, verset 20. C'est Moïse qui parle et qui dit. Voilà. Il dit, « Regarde, le Seigneur ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a dit. N'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Vous vous êtes tous présentés devant moi pour me dire, envoyons des hommes en avant de nous. » Ah ah, ils exploreront le pays et ils nous feront un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cette parole m'a plu, j'ai pris 12 hommes. Oh oh, c'est pas ce qu'on vient de lire. Et c'est là qu'on découvre un des points, peut-être qui peut parfois sembler bizarre dans la Bible, c'est qu'il y a des raccourcis parfois. Il y a des raccourcis dans la Bible et qu'il faut regarder de près. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit à Moïse « Envoie des hommes » ou est-ce que c'est les gens qui ont râlé, comme dit Deutéronome, pour avoir des espions ? Eh bien, c'est les deux. C'est-à-dire que si on comprend bien la parole de Dieu, les Israélites, comme d'habitude, sont venus rouspéter en disant « Waouh, on ne connaît pas le pays, il faut envoyer des espions, il faut qu'on regarde quand même, n'est-ce pas la sagesse ?» La parole a convenu à Moïse, pourquoi pas ? Et il en a certainement fait part à Dieu, qui lui a répondu « Envoie des hommes explorer Canaan. » Voilà, et il y a un raccourci là, c'est clair. Hein ? Donc voyez que la Bible ne se contredit pas nécessairement, mais que si on prend les deux versets qu'on les met côte à côte, on a le déroulé de l'action. Ouais, on veut explorer, nous on ne sait pas où on va, vous rendez compte ? Ok, ça plaît à Moïse, il s'adresse à Dieu et Dieu lui dit « Envoie des hommes explorer Canaan. » Voilà déjà une chose claire. Mais alors là, ça veut dire que Dieu a autorisé Moïse à céder à la demande du peuple. Alors à ce propos, il arrive que Dieu cède à nos demandes. J'ai quand même vu pas mal de gens qui ont insisté auprès de Dieu pour avoir quelque chose, et tellement insisté que Dieu a fini par leur donner. Puis, ça n'a pas toujours été génial. Donc, moi, j'ai l'habitude de prier, ça vous le savez tous. Seigneur, vraiment, je voudrais ça, j'insiste pour ça, pour un tel, pour un tel. Mais si tu ne veux pas, surtout ferme la porte. Parce que je veux être persévérante dans la prière, mais je ne veux surtout pas que Dieu me donne quelque chose parce qu'il en a marre de m'entendre et qu'il se dit, bon, il faut lui donner parce que sinon elle n'apprendra rien. Et il y aura une fessée au bout, il y aura un problème. Moi, je préfère éviter les problèmes. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme la porte. Je ne veux pas insister au point que Dieu me donne quelque chose pour après me dire, quand on a les morceaux de caille entre les dents, qu'on tombe malade, non. Ça, c'est important. Mais il y a un autre problème. C'est que vous allez remarquer que Josué, quand ça va être son tour d'entrer en Canaan, il va aussi envoyer des espions. Josué, qui a vu ? On va raconter l'histoire après, mais vous la connaissez. Mais qu'est-ce qui lui prend à Josué ? Il a vu ce que ça a donné d'envoyer des espions. Non, mais il a de l'expérience maintenant, Josué. 40 ans dans le désert, nan, nan, nan. Et il recommence. Et le pire, c'est que ça se passe très bien. Alors, ça veut dire quoi ? On a le droit d'envoyer des espions ou on n'a pas le droit d'envoyer des espions ? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le jour des contradictions. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va retrouver le même problème que tout à l'heure. Le problème, c'est la motivation du cœur. On retombe toujours là-dessus quand on est chrétien. Toujours. C'est casse-pied, hein ? On en revient toujours là. La motivation du cœur. C'est vrai que ça peut être fatigant. C'est une rengaine, mais c'est la vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand ils envoient les espions la première fois, c'était suite à des rouspétances. C'était suite à la peur. Et en fait, le peuple, il ne se préparait pas à la conquête. Il était mort de peur. Il n'avait pas trop envie. Il voulait bien le pays où coulait le miel. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, si, il faut se battre. Enfin, on se met à sa place, à leur place, c'est pas évident. Mais en fait, ils cherchaient des arguments pour pas y aller. La vérité, c'est que on le voit après, hein, la vraie motivation du peuple en demandant des espions, c'est qu'ils cherchaient une occasion de dire c'est terminé, des arguments pour pas y aller. Par contre, quand Josué, lui, va envoyer des espions, c'était simplement pour voir par quel chemin on allait passer, ce que pensait le peuple en face, où est-ce qu'on en était. Et peu importe le rapport qu'il a fait, ils y seraient allés de toute façon. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt. Donc, vous voyez, la motivation du cœur, c'est quelque chose de très, très important. Et je sais que les jeunes sont très sensibles à l'hypocrisie. Et c'est bien, c'est très bien, il faut rester toujours sensible, parce que vraiment, c'est une horreur, l'hypocrisie. Par contre, parfois, on confond, je l'ai déjà dit, mais je me redis, on confond hypocrisie et obéissance. Moi, je me souviens d'un jeune chrétien qui m'avait dit une fois, il y a longtemps, « Oh, mais moi, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le ferai pas, parce que c'est de l'hypocrisie. » Ça veut dire que tous les enfants sont d'affreux hypocrites quand ils se lavent les mains, quand ils vont se coucher, quand ils mangent, quand ils vont à l'école. Non, ils obéissent. Oh, parfois à contre-cœur, ça. Je dis pas le contraire, mais ils obéissent. Donc il faut jamais confondre dans notre vie chrétienne l'hypocrisie et l'obéissance. Je vais vous donner un exemple parce que c'est pas toujours évident. Imaginez que vous dites « je me fais violence ce matin pour me lever, pour aller au culte ». C'est probablement vrai pour beaucoup d'entre nous. J'ai pas envie d'aller au culte ce matin. Mais bon, c'est le jour qui est réservé pour le Seigneur, je vais y aller. Je suis fatiguée. J'ai pas envie. C'est pas de l'hypocrisie, ça. C'est de l'obéissance. Seigneur, je veux vraiment te faire plaisir. Je veux vraiment réserver un jour pour toi. On peut prendre un autre exemple. Je vais à l'église chaque dimanche. Là. Comme ça, personne n'aura jamais rien à me dire. Le reste de la semaine, je fais ce que je veux et qu'on ne vienne pas m'embêter avec leur bondieuserie. Les motivations du cœur ne sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, l'action est rigoureusement la même. Et peut-être que personne ne le saura et personne ne le verra jamais. Sauf peut-être des gens qui ont du discernement, mais peu importe. Mais Dieu, lui, voit la motivation du cœur. Et c'est à lui qu'on peut faire confiance. Et vous savez, Dieu a dit quelque chose de très fort à ce sujet. Quand il dit que le bon grain pousse à côté de l'ivraie, et dit, mais on peut déraciner l'ivraie. Il dit non, parce qu'en déracinant l'ivraie, vous risquez de déraciner aussi le blé qui est à côté. Et ce n'est pas à nous de faire le tri. Remettons ça entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît le fond des cœurs. On ne peut que remettre ça entre les mains de Dieu. Et il y a un verset, il y a deux versets importants à ce sujet. C'est que il faut être quand même conscient que le verset dit « c'est une chose terrible que de tomber aux mains du Dieu vivant ». Donc attention aux motivations de notre cœur. Alors là, je vais tous vous faire peur. Oh, Seigneur, mes motivations. Alors il y a un verset merveilleux pour ceux qui ont peur. « Sonde-moi, ô Dieu, psaume 139, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Si vous n'êtes pas sûr de vos motivations, demandez au Seigneur. Ne restez pas dans la peur du... Parce que vous savez, parfois, il y a des gens qui font de l'introspection. Oh, mes motivations, elles sont pas nettes. Elles seront jamais nettes, on est pécheurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur les voies de l'éternité. La repentance, ça existe. Le pardon, ça existe. Si vous pensez que vos motivations sont pas bonnes, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, ce qui arrive, je crois, à nous tous, eh bien, disons ce verset de tout notre cœur. Demandons pardon, Seigneur, et demandons un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il est beau ce verset aussi. C'est fou, hein, qu'on dépend de Dieu pour tout. Même pour nos motivations. Parfois, je suis ahurie, je me dis, bon, on peut vraiment pas faire grand-chose tout seul. Bien. Alors, on va voir que ils envoient donc des... Ils choisissent bien, en plus, hein, apparemment. Un prince de chaque tribu pour aller explorer le pays. Et puis, on retrouve, tiens, pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Tiens. Et là, ils ont mis son vrai nom, Osée. Parce qu'en fait, on a utilisé son deuxième nom, là, tout le temps. Mais il s'appelait Osée, salut, délivrance. C'est bien. Mais pourquoi Moïse va changer son nom ce jour-là? C'est le verset 16. « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya explorer le pays. Moïse appela Osée, fils de Noun, du nom de Josué. » Changez le nom. C'est ce que Dieu nous promet, hein, pour l'éternité. Un nom nouveau. Un nom porteur de sens, toujours. Et de « salut, délivrance », il devient « Dieu sauve, Dieu délivre ». Ah ah ! Qu'est-ce que Dieu veut lui dire à notre Josué ? Tu portes peut-être le nom de salut, délivrance, mais rappelle-toi toujours que quoi qu'il arrive, c'est Dieu la délivrance et c'est Dieu qui sauve. C'est pas toi, Josué. T'es peut-être rempli de la présence de Dieu, t'es bien préparé, mais quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui délivre. Ça touche, hein. Il commence à prendre des responsabilités, Josué, et on lui rappelle, attention, tu es pas seulement salut, délivrance pour les autres, tu es Dieu et délivrance, Dieu sauve. Et l'important, ce n'est pas tellement la délivrance ou la victoire, mais c'est que Dieu soit à l'origine de cette délivrance et de cette victoire. Alors, on arrive au nombre 13, versets 17 à 33, et je pense que c'est important de le lire. Il leur dit, « Montez-y par le Néguev, vous monterez dans la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est. Hein, » Il leur donne un programme très clair. « Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes, les campements, les arbres, etc. Soyez forts, prenez du fruit du pays. » C'était le temps des premiers raisins. C'est marrant qu'ils fassent allusion à ça. Ils montent, ils explorent le pays, depuis le désert jusqu'à Réoth, à l'entrée de Hamat. Ils montèrent dans le Néguev, allèrent jusqu'à Hébron. Hébron, vous vous rappelez, dans le territoire d'Abraham. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan d'Égypte. Intéressant ce petit verset pour les archéologues, parce que Tsoan était une ville pratiquement capitale d'Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à l'oued Eskol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils durent porter à deux au moyen d'une perche. Alors vous savez, parfois quand on lit ce verset, on se dit, mince, ils étaient un peu marseillais dans la Bible. Hein. Parce que quand même, une grappe de raisin qu'on porte au moyen d'une perche. Et puis, l'année dernière, je suis allée à Auchan. Et j'étais sidérée, j'aurais voulu l'acheter et la couler dans une matière plastique pour la garder, une grappe de raisin qui était sur l'étal, à Auchan, à Mantes, qui était, j'exagère vraiment pas, comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, c'est pas étonnant qu'à l'époque, il y ait pu y en avoir des grandes, parce que déjà, ça, c'est pas mal à notre époque. J'étais sidérée, j'aurais voulu l'acheter, aujourd'hui, la prendre en photo. Donc, non, ils exagéraient visiblement pas. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit... ou être de la grappe, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. C'était un symbole très fort, hein, le raisin, pour eux. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. 40 jours dans la Bible, hein, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps long. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites, dans le désert de Paran. Ils firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté. Et ils montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent, « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. » Ah, il commence par le positif. Qui veut la bonne nouvelle ? D'abord. On dit toujours, hein, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez quoi d'abord ? Il commence par la bonne. Alors, c'est important parce que quelque part, c'est ce que Dieu leur a toujours dit. Vous allez rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ces braves gens, ils auraient dû réfléchir. Vous avez déjà vu du lait couler tout seul ? Pour avoir du lait, il faut élever des petits veaux. Il faut qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des vaches, qu'ils aient des petits. Et après, on a du lait. Et il faut continuer à les traire. C'est du boulot de traire les vaches. Hein. Bon, maintenant, on a des machines, mais à l'époque, ils n'en avaient pas. Le miel. Pour aller chercher le miel avant de le manger, bon courage. Tout le monde a vu Winnie l'ourson, quand même. Bon, c'est pas évident. Les abeilles, elles restent autour. Il y a toute une technique et ça pique, les abeilles. Le miel, il ne coule pas comme ça, hein. Il faut aller le chercher, et c'est dangereux. Eh bien, c'était pareil. Dieu n'avait pas raconté d'histoire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait du travail, et il y avait du danger. Et là, je voudrais nous dire à chacun, parce que c'est quelque chose... Souvent, on dit, ah, j'attends cette bénédiction du Seigneur. Oh, alors que ce soit un travail, que ce soit n'importe quoi. Et on dit, oh, le Seigneur va me bénir, il m'a promis. Un ministère, n'importe. Mais on oublie qu'il n'y a pas grand-chose qui nous tombe tout cuit dans le bec. Il y a du travail. Et les enfants, c'est pareil. On vous dit, vos parents, ils sont sympas, hein, ils vous disent, travaille bien à l'école, tu vas voir. Tu auras un boulot, tu auras un bon salaire, et tu pourras avoir une influence sur les non-chrétiens. C'est formidable. Et puis parfois, les enfants, vous vous dites, waouh, ça va être bien. Bah oui, mais il faudra quand même beaucoup travailler. Et beaucoup prier. Ah, c'est l'autre partie, c'est la vérité. Et les enfants d'Israël, tout ça, ça leur échappait un petit peu. Et ils arrivent en disant, oui, oui, c'est vrai, il y a du miel, il y a du lait. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Nous ne pouvons pas monter vers ce peuple, il est plus fort que nous. Vous n'avez pas l'impression parfois que dans la vie, il y a des choses qui sont plus fortes que vous ? Et je crois que c'est... Il y a deux problèmes là aussi. Il y a des choses, on dit, oh, bah, de toute façon, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que bah, il faut s'en débarrasser, et que le Seigneur peut nous en débarrasser. Mais parfois, c'est les ennemis qui sont plus forts que nous. C'est la situation, c'est les impossibilités. Alors là, j'ai fait toute une liste d'impossibilités. Hein ? Quelque part, je trouve que la vision des espions, elle est un peu exagérée. Parce que, quand même, ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu là des Néphilim, des Anakites qui sont entre les Néphilim. Nous étions à leurs propres yeux, à nos propres yeux, comme des criquets. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Quand même, faut pas exagérer. Une sauterelle et un humain. Bon, puis deux humains, un grand puis un plus petit. Ils exagéraient, mais le problème, c'est ça. C'est que leur vue était complètement déformée. Parce qu'ils avaient une fausse vision d'eux-mêmes et une fausse vision de ce que les autres pensaient d'eux. Et là, on a eu un séminaire extraordinaire avec Dan Snead qui nous a décortiqué ce problème. Parce que la première question qu'il nous avait posée, c'était « Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas rentrés au pays promis ?» Et on était tous là avec nos réponses. Ils n'ont pas eu la foi, ils n'avaient pas confiance en Moïse, ils avaient peur, ta. Puis il a dit non. Rien de tout ça, ils avaient vu Dieu faire des miracles. De l'eau, l'écaille, la manne, la colonne de fumée, la colonne de feu. Quand on a vu tout ça, on peut quand même faire confiance en Dieu, quand même. La mer Rouge était séparée. Et il est tombé sur ce petit verset. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets ou des sauterelles. Aïe. Leur vue était fausse. Leur vue était tordue. Et nous, malheureusement, on n'est pas immunisés à cette maladie-là. Notre vue est parfois tordue sur nous-mêmes et notre vue est parfois tordue sur nos ennemis, sur la situation qui est en face de nous. Moi, je ne connais pas toutes les situations, mais que ce soit des situations familiales, des situations de travail, des situations de ministère ou autre, notre vue est parfois tordue. Et on se voit comme une sauterelle, on est persuadé que les autres nous voient comme des sauterelles. Ça, c'est terrible, hein. Savoir ce que les autres pensent de nous, en être sûr, ça quand même c'est un peu fort. D'autant plus que quand Josué a envoyé les espions à Jéricho, qu'est-ce qu'il a découvert ? C'est qu'ils tremblaient tous, bon ils tremblaient tous, je vais quand même pas être vulgaire, ils avaient tous très peur. Et pourtant, eux, de leur côté, oh, ils nous voient comme des sauterelles. Et là, je ne fais que répéter ce que Dan Snead a dit, attention à notre vue. Sur nous-mêmes, notre vision de ce qu'on imagine que les autres ont de nous. Alors, par exemple, quand on voit nos problèmes, on voit que les impossibilités, les challenges. Hein, on en a tous, un pays promis qui nous semble inaccessible. Je sais que quand on est en sixième hein, et qu'on voit le bac, on se dit « Oh, j'y arriverai jamais ». C'est vrai, c'est pas vrai ça hein. Mais pourtant, la Bible est claire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il ne dit pas ce qui nous semble impossible, mais ce qui est. Il y a des choses authentiquement impossibles. Hein. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non, le bras de Dieu n'est pas trop court. Alors si on fait une liste de nos impossibilités, hein, on est trop ceci, trop cela, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop difficile, c'est trop dangereux. Ou bien alors, oh, mais j'ai lu ça, on m'a dit, j'ai vu à la télé que ce n'était pas possible, on m'a raconté ça, un tel n'a pas réussi, je connais 6 personnes qui ont raté, je suis moi trop ceci, trop cela, pas assez à la hauteur, trop blessée, trop fatiguée, trop chargée, trop découragée. Puis on peut faire des listes hein, d'impossibilités. Qui n'a jamais dit ça? Je ne peux pas lever la main. On a tous dit ça. On a des listes d'impossibilités en ce qui concerne nos problèmes et nous-mêmes. Mais ce serait dommage de finir en dehors du pays promis, simplement en se justifiant comme ça. Hein? Par exemple, moi ça me fait toujours un peu sursauter, quand on dit oh « ben moi je suis qu'une sauterelle hein, », ou bien « moi je suis timide, donc ça sera toujours comme ça, je pourrai jamais ». Ou bien « je suis d'un naturel agressif, hein, faut me prendre comme je suis, c'est ma façon d'être, je prends rien au sérieux, bon ben il faut me prendre comme je suis ». Disons « j'ai toujours eu trop peur ». Ou dans ma famille, on est tous très anxieux. C'est le cas du côté de ma maman, de ma grand-mère surtout. Bon, est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de rentrer dans le pays promis? Alors là, déjà, il y a une première barrière à casser. C'est sur ce qu'on est nous-mêmes et comment on se voit nous-mêmes. Tous ces arguments-là, ils ne sont pas recevables devant la parole de Dieu. Et battons-nous là-dessus. C'est notre premier combat, je crois. Se battre sur ce qu'on est à nos yeux. Je suis trop timide, je suis trop ci, je suis trop ça. Je suis français, donc c'est normal que je râle. Oh, c'est ce qu'ont dit les gens, hein. C'était marrant parce qu'ils nous l'ont dit comme ça, tellement naïvement, c'était chou. Est-ce qu'on n'a pas à se battre contre ça? Et là, je crois qu'on a une bagarre à faire par rapport à ce que nous, on se voit. Parce qu'on a une vue déformée de nous-mêmes. Alors, il y a une vue réaliste, hein, mais il y a aussi une vue déformée. Et Dieu peut nous changer. S'ils sont des choses réalistes, Dieu peut nous changer. S'ils sont des choses déformées, Dieu peut guérir notre vue. Et puis après, ce que les autres pensent de nous. Alors là, c'est encore pire parce qu'on se met à la place des autres. Qu'est-ce qu'on en sait, ce que pensent les autres? Donc, dans tous ces cas-là, il y a une réelle victoire en Jésus. Et c'est peut-être la première victoire pour entrer au pays promis. Et c'est celle qu'ils ont dû attendre 40 ans. Il a fallu qu'ils meurent tous dans le désert pour qu'après, ils puissent rentrer, être débarrassés de cette vue tordue. Et je crois que c'est... On va terminer par la prière. Parce que je pense que c'est quelque chose qui nous freine tous dans notre vie chrétienne. La vue que j'ai sur moi-même, ce que j'imagine que les autres pensent de moi. Toutes les choses où je me justifie en disant « Mais c'est normal, moi dans ma famille on est tous comme ça, il n'y a aucune raison qu'on change. » Ben si, il y a une raison qu'on change. Parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Et on ne va pas mépriser le sacrifice de Jésus. Seigneur, tu connais nos vues tordues sur nous-mêmes, nos vues tordues sur nos situations impossibles, nos vues tordues sur ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Nous avons besoin, Seigneur, d'être guéris pour rentrer dans le pays promis. Tu sais, Seigneur, tout ce qui nous freine, mais tu as un amour extraordinaire. Tu as donné ta vie pour nous. On ne veut pas mépriser ton sacrifice. Nous voulons te dire ce matin, Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide pour qu'on puisse rentrer dans notre Canaan, dans ce que tu as promis pour nous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau du ministère, au niveau de la famille, que nous puissions rentrer dans ce que tu nous as promis. Change nos cœurs, Seigneur. Comme le dit le cantique, change mon cœur, Seigneur. Que nous soyons vraiment de l'argile entre les mains du potier, pour que, Seigneur, tu puisses changer notre vue sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos impossibilités. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu rends possible ce qui est impossible et aussi ce qui nous semble impossible. Nous nous remettons entre tes mains. Je te remets tous mes frères et sœurs qui vivent peut-être des batailles face à leur Canaan, qui ont envoyé des espions dans leur Canaan, qui reviennent en disant « j'y arriverai jamais ». Que Seigneur, tu renouvelles le courage de chacun. Tu renouvelles surtout la vue. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on voit les choses comme toi. Qu'on se voit nous-mêmes comme toi, tu nous vois. Change nos cœurs pour que nous puissions vraiment remporter des victoires au quotidien dans notre vie, Seigneur. Amen.